parle dans le micro.
Comme ça m'angoisse les interviews, j'arrive pas à parler.
C'est
en plus.
C'est mémorable. On passe à la radio aujourd'hui quand même.
C'est l'enfer.
Studio Zafar Vendôme, c'est sur le 91.7 FM. Et partout dans le monde sur studiozef.fr.
Bonjour tout le monde, moi c'est Alicia.
Et moi Talicia.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter à notre façon les droits des femmes. Ensemble, on va réfléchir, échanger, se mobiliser pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la place des femmes dans la société.
Et ce sera aussi l'occasion de fêter la Journée internationale du droit des femmes qui se déroulera tous les 8 mars en compagnie de toute notre classe de seconde de CVPA du lycée Horticole de Blois.
Bon, est-ce que nous commencerons pas avec le groupe de Jules, Jade et Lou qui veulent nous parler de la singularité entre les droits des femmes en France, mais aussi le pays du sirop d'érable.
Tu parles du Canada ?
Bah ouais, carrément, commençons.
Bonjour à tous. Comme dit plus tôt, nous avons traité des droits des femmes dans deux pays, la France et le Canada. Il faut savoir que les Canadiens ont environ 48 ans d'avance sur nous. Pour le droit de vote, avant même la création du pays, cela posait déjà question. C'était en 1867, puis ça a traîné jusqu'au XXe siècle. En 1960, le droit de vote a été obtenu après des décennies de manifestations.
Oui, bah ok, mais pas toutes les femmes. Les autochtones et les asiatiques ne pouvaient pas voter avant 1960, alors qu'en France, en 1944, c'était toutes les Françaises qui bénéficiaient du droit de vote.
Pour revenir au Canada, le héros de la Seconde Guerre mondiale est une héroïne. Elle s'appelle Lorraine Hortlieb. Elle a marqué les esprits car c'est la première femme officière générale et la deuxième commandante féminine d'un navire.
Et puis les femmes sont de plus en plus représentées politiquement. C'est aussi un pays engagé internationalement.
Ah, c'est gros gnogneux, hein. D'après ce que vous dites et ce que j'en comprends, le Canada, c'est un pote un peu blindé, la main sur le cœur hyper progressiste, avec un verre de sirop d'érable à la main. En attendant, on reconnaît les féminicides, nous.
Non, pas dans le code pénal, ni en France, ni au Canada. Et d'ailleurs, personne ne se sert un verre de sirop d'érable.
Merci pour ce voyage glacial.
Haha, retournons en France avec notre petit duo favori, Liu et Leandro, qui vont tester les connaissances des élèves, l'accès aux études et l'égalité des chances.
Bonjour, nous sommes Liu et Leandro. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un quiz sur le droit d'étudier pour les femmes en France.
Première question, selon vous, à partir de quand les femmes ont eu le droit d'étudier ? À partir de 1864, 1911, 1850 ?
Question B.
Non, c'est pas la bonne réponse. C'était la question C. C'est grâce à une loi, la loi de Falloux, qui incite à ouvrir des écoles pour les filles.
Deuxième question. Selon vous, qui a rendu l'école obligatoire pour les filles ? A. Jules Ferry. B. Marie Curie. C. Yves Tanguy.
La réponse A.
Oui, c'est Jules Ferry. Dès 1882, les filles sont obligées d'aller à l'école de 6 à 13 ans, ce qui permet de leur donner une éducation de base.
Question 3. D'après vous, quand les écoles mixtes ont été créées ? Réponse A, 1975. Réponse B, 1965. Ou réponse C, 1998.
Réponse A.
C'est bien ça. En 1975, finies les écoles des filles ou les garçons ? La mixité devient obligatoire dans le primaire et le secondaire.
Troisième question. Quel métier était interdit aux femmes jusqu'en 2014 ? A. Président. B. Plombier. C. Sous-marinier.
La A.
C'est sous-marinier. Il n'y a que 20 femmes sous-marinières en France encore aujourd'hui.
Question 5. Qui a été la première femme à avoir eu son bac ? Réponse A. Marie Curie. Réponse B, Julie Victoire Daubier. Ou réponse C, Jane Chauvin.
Marie Curie ?
Non, c'était Julie Victoire Daubier. Née en 1824, Julie Victoire Daubier est la première femme à être autorisée à passer le bac et elle l'obtient.
Sixième question, en quelle année les femmes ont pu s'inscrire aux Beaux-Arts ? A. 1897, B. 1904, C. 1891.
1904
Non, c'était 1897.
Et dernière question. En quelle année les femmes ont pu s'inscrire à la fac sans autorisation de leur mari ? Réponse A, 1928. Réponse B, 1938. Ou réponse C, 1918.
Réponse B.
C'est bien ça. Merci de nous avoir écoutés. On espère que grâce à ce quiz, vous aurez appris des choses.
Merci pour ce petit drôle de quiz. Et merci aussi à Jules Ferry.
Bah là, on va se laisser avec une petite musique. On se retrouve après. Bisous les copains, copines. C'était bien, tu sais, sur Studio ZEF, on continue notre émission. Bon, de quoi allons-nous parler ensuite, Alicia ?
On a parlé des études, on a parlé aussi de l'égalité des métiers. Maintenant, parlons de ce qui nous concerne tous.
L'argent !
La moula !
Continuons sur notre lancée avec un autre duo, Luna et Annelise, qui vont nous parler des accès aux métiers en France.
Bonjour, nous allons vous parler de l'égalité homme-femme, mais vous devez sûrement vous demander pourquoi. Eh bah, pour tout vous dire, c'est parce que nous nous sentons concernés par ce sujet. Car nous sommes des femmes et nous commençons à rentrer dans le monde du travail, à travers nos périodes de stage et nos jobs d'été que nous effectuons. Pour commencer, Annelise, qu'est-ce qui s'est passé de 2019 à aujourd'hui d'important concernant le monde du travail ?
Tout d'abord, d'après une étude de l'INSEE publiée le jeudi 3 mars 2022, révèle des améliorations mais des inégalités encore présentes. 22% des cas entre les hommes et les femmes en 2019, contre 27% en 1995. 43% de cadres femmes en 2020, contre 21% en 1982. Pour connaître l'opinion des habitants de Blois, on a pris notre micro et sommes allés au centre-ville pour les interviewer. Que pensez-vous du droit de la femme dans le monde du travail ?
Bah, je pense que le droit de la femme, elle a des droits autant que les hommes maintenant. On a les mêmes droits que les hommes.
Alors je trouve qu'en vrai tout dépend le métier, mais des fois c'est vraiment pas égaux, voilà. Après tout dépend aussi du patron. Si c'est un homme, forcément, bah si c'est un homme qui est égal avec les femmes, qui les voit bien et tout, ça va bien se passer. Mais il y en a, ils sont contre les femmes, donc ils vont pas avoir des employeurs. Je trouve que c'est pas égaux par rapport à ça. Dans certains métiers, ce qui est surtout dans les bâtiments, je pense que c'est les métiers le moins égaux.
Il n'est pas respecté. Égalité salariale, je crois pas. Il y a un code du travail, toi.
Oui.
Je connais pas tous les articles.
C'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai pas un travail d'entreprise normale. Je suis kiné, j'ai été indépendante pendant longtemps, donc j'étais un peu toute seule aux commandes Et dans le centre de rééducation où je bosse, à titre vraiment perso, j'ai vraiment aucun problème là-dessus. Mais je sais que c'est pas toujours facile et qu'il y a encore plein de choses à régler. Mais à titre perso, j'aurais du mal à en parler, à donner mon témoignage, parce que chez moi, bah, ça va.
Ah oui, mais moi, c'est un peu la même. Je suis dans une entreprise où c'est à majorité féminine. Et pareil, sur les postes de direction, c'est à majorité féminine. Et j'ai pas vu de... Il y a encore des anciens postes où, pour le coup, il y a encore des inéquités de salaire, à même niveau hiérarchique. Mais c'est vrai que maintenant, ça s'est bien amélioré. Mais ça, c'est juste sur la partie traitement de salaire après.
Alors, pensez-vous qu'il existe des métiers destinés que pour les femmes et que pour les hommes ?
Oh oui, oui. Les métiers d'hommes, surtout, il y a beaucoup de charges. Surtout, tout ce qui est charges lourdes. Je pense que c'est le métier pour hommes, tout ce qui est chantier extérieur et sous la pluie et tout, ça, je pense que c'est plus pour les hommes que les femmes.
Je connais des meufs qui font de la charpente, par contre, il y en a très peu. Moi, je leur souhaite aux femmes de faire des métiers dangereux. Hein, parce que la meuf en caissière, machin, bon, hein, voilà.
Non, je suis pour la parité, donc non. Je pense qu'un homme et une femme peuvent faire le même métier.
Je vois pas pourquoi une femme ne serait pas capable de faire un métier différent et pourquoi il y aurait une différence entre les hommes et les femmes du point de vue professionnel si la formation est adaptée et si les conditions d'accès sont les mêmes pour tout le monde, alors le travail réalisé devrait être le même pour tout le monde. Voilà.
D'après vous, est-ce qu'une femme est capable de faire les mêmes métiers que les hommes ?
Je pense en partie, mais pas tout. Pas à 100%, peut-être à 60%, mais pas à 100%. Parce que comme je disais, il y a des métiers que les femmes ne peuvent pas faire, disons, des charges lourdes, travailler sur des chantiers extérieurs, tenir la pelle et le ciment et monter des bâtiments, je pense que c'est pas le rôle de la femme.
Des métiers de force, je pense que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais sinon, oui, je vois pas d'objection.
Je suis cuisinière. En tant que cuisinière, on fait le même métier, on a les mêmes charges, on pratique pareil. Il n'y a pas plus pour l'homme que pour la femme, non. On est égalité.
Alors oui, tout à fait. Après, de base, les hommes ont dit qu'ils ont plus de force et tout. Mais si une fille, une femme plutôt, elle veut, elle peut réussir à même être plus forte qu'un homme. Voilà, j'en connais même largement plus forte. Donc elles peuvent, ce qui est physique. Mental, c'est pareil, on n'a pas tous le même mental, mais en fait, tout dépend de la personne. Je dirais pas que c'est par rapport au sexe, mais plutôt par rapport à la personne qu'on devrait se fier. Voilà.
Mais il y a quand même une différence physique, parce que j'ai jamais vu de femme sur les chantiers,
Il faudrait se renseigner sur les chantiers, justement, ça évolue énormément, et de nos jours, on ne porte beaucoup moins de charges dans les chantiers, donc tout le monde peut travailler dans les chantiers, et il y a de plus en plus de femmes qui travaillent dans les chantiers, comme il y a de plus en plus d'hommes qui travaillent dans les métiers du care et les métiers dits féminins, justement, ces choses-là sont en train d'évoluer et doivent évoluer beaucoup plus rapidement.
Comment peut-on améliorer les conditions des femmes au travail, selon vous ?
Eh ben déjà, le respect, toi. Voilà. C'est pas parce que t'es une meuf que tu grimpes pas l'échelle, hein, tu vois. Donc, les a priori, après, les... C'est... Voilà.
Bah, la femme, pour dire, bon, bah, déjà, elle a double travail, une femme. Elle a le travail extérieur, elle a le travail intérieur, c'est-à-dire les enfants, le ménage, elle a double travail. C'est-à-dire, bon, bah, améliore un petit peu le salaire de la femme, et va valoriser son salaire.
Oula, vaste question. Bah, déjà, les respecter peut-être un petit peu plus, et puis bah, les rémunérer à leur juste valeur.
Alors pour moi, ça passe avant tout par l'organisation sociétale, c'est-à-dire permettre aux pères, parce que la base, la première discrimination, elle se situe dans la sphère familiale, c'est-à-dire laisser, obliger même les pères à prendre leurs responsabilités et du coup, ne pas obliger lors d'une maternité la femme de prendre les responsabilités familiales et du coup, mettre entre parenthèses leur travail. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est le congé parental paternel obligatoire, équivalent à celui de la mère.
Pour moi, il y a aussi l'information, parce que les filles, on nous apprend moins qu'on peut faire les mêmes métiers que les hommes. Et du coup, ça, dès l'école primaire, collège, lycée, et après, ça continue dans le supérieur aussi, parce que les différences jouent aussi dans le supérieur. Tout le monde doit expliquer que filles, garçons, on peut faire les mêmes métiers. Et ça, c'est encore pas assez expliqué, donc il faut plus d'informations à ce niveau-là.
Il y a aussi la partie télétravail qui peut aider dans l'organisation du travail. J'ai des collègues qui ont de l'endométriose. En fait, tu as des recruteurs qui discriminent aussi par rapport à ça. Tu as le côté, effectivement, enfant, mais même sans avoir des enfants, le côté de « Oh là là, non mais va y avoir la question de chaque mois, il y a une période qui va être compliquée, etc. » Ça peut être une discrimination aussi. Et en fait, nous, on est en train de mettre en place du télétravail avec une... des jours justement flexibles, enfin des jours, comment on appelle ça, occasionnels, et qui du coup qui sont de manière non discriminatoire pour les hommes ou pour les femmes. Mais du coup, bah, si un jour bah, il y a une personne qui ne se sent pas de faire la partie transport et tout ça, bah, que ce soit homme ou femme, bah, du coup ça laisse un peu plus de marge de manœuvre. Et en vrai, ça, je trouve que ça va dans le bon sens pour le coup.
Tout le monde peut choisir son métier comme il veut, n'importe quoi. Que ça soit n'importe son sexe.
Pour résumer tout ça, d'après le ministère du Travail et Expetra, l'égalité entre les femmes et les hommes implique le respect de plusieurs principes par l'employeur. Mais dis-nous, Anne-Lise, quels sont les principes donnés par l'employeur ?
Tout d'abord, il est interdit de faire de la discrimination en matière d'embauche, de faire une différence en matière de rémunération et de déroulement de carrière, de mettre à disposition les informations relatives à l'égalité professionnelle aux représentants du personnel, et mettre en place des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l'entreprise. Mais dis-nous, Luna, sais-tu les étapes pour le droit du travail des femmes ?
Oui, pour commencer, le 13 juillet 1983, il y a la première loi sur l'égalité professionnelle. Mais dis-nous, Anne-Lise, quelle est cette loi ?
Cette loi parle de l'interdiction de toute discrimination liée au sexe dans le domaine professionnel.
Ensuite, le 11 mars 1986, il y a eu la féminisation des noms de métiers, comme par exemple pompier, qui peut se dire également pompière. Avec ensuite la création de l'Observatoire de la parité, le 18 octobre 1995, qui permet de voir les domaines où les inégalités sont les plus flagrantes.
En 2006, il y a eu le renforcement de la loi pour l'égalité salariale, qui impose des négociations pour supprimer des écarts de salaire. Avec ensuite, qui se poursuit en 2011, un pas de plus vers l'égalité professionnelle, avec dans les conseils d'administration l'égalité homme-femme.
J'espère que notre sujet vous a plu. On vous dit au revoir et veuillez respecter l'égalité homme-femme dans le monde du travail. C'était Luna et Anne-Lise sur le droit des femmes dans le monde du travail.
Merci pour ces petites informations.
C'était super intéressant. Bon, bah de quoi on va parler, Tavicia ?
Alors maintenant, on a parlé des études, on a parlé aussi de l'égalité des métiers. Maintenant, parlons de ce qui nous concerne, la thune.
L'argent, la moula, ouais. Voilà. Inès, Nolan et Agathe qui vont nous faire un retour au passé, l'égalité des salaires en 2022.
Bonjour, nous allons vous présenter notre sujet qui est l'égalité salariale en France.
D'abord, l'égalité salariale, c'est le principe selon lequel tous les individus effectuant le même travail ou un travail de valeur égale doivent recevoir une rémunération égale sans distinction de sexe, race ou autres caractéristiques.
Maintenant, nous allons écouter l'avis des personnes présentes dans le lycée.
Que pensez-vous des salaires hommes-femmes en France ?
Bah, les salaires hommes-femmes en France, je pense que les femmes gagnent moins que les hommes. Ça a toujours été, hein, jusqu'à ce jour. Hein.
Donc moi, je suis fonctionnaire, ce qui veut dire qu'on est rémunéré par rapport à une grille et des indices. Mon salaire, en tant que femme, est égal à celui d'un homme qui assure la même mission et qui a le même échelon. Donc, dans le fonctionnariat, c'est équitable sur le niveau de poste que moi j'occupe.
Il y a encore une trop grosse disparité. Au moins, plus de 20% des hommes gagnent plus que les femmes pour poste égal. Ça reste encore. Ça rattrape, mais ça ne vient pas encore à égalité. Peut-être, dans l'avenir.
De mon avis, je pense que les salaires hommes-femmes en France sont plutôt égaux, même si, selon les sources de l'INSEE, nous pouvons voir qu'il y a un écart salarial d'environ 3%, quand même, qui est quelque chose de notoire sur un salaire, surtout sur les bas salaires, par exemple le SMIC.
Pensez-vous que les salaires devraient être changés ?
Oui, bien sûr, ça devrait être changé, on devrait avoir des augmentations, mais même avec l'augmentation, de toute façon, le pouvoir d'achat, il a augmenté, ça veut dire que depuis qu'on est passé à l'euro déjà, c'est énormément, ça a changé énormément. Oui, c'est vrai.
Oui, pour le pouvoir d'achat, oui. Parce que plus on gagne, plus on dépense. Et pour faire retourner l'économie, c'est pas en tirant les salaires vers le bas qu'on fait redémarrer l'économie.
Je pense que non, les salaires ne devraient pas être changés, ou en tout cas le SMIC ne devrait pas être changé. Souvent, l'idée première est que si on changeait le SMIC et qu'on l'augmentait, le niveau moyen de vie pourrait augmenter de lui-même. Mais en réalité, si on venait à augmenter le salaire d'un coup, l'inflation viendrait en même temps et augmenterait.
Si on gagne plus d'argent, on en voudra de toute façon toujours plus. Donc est-ce que c'est nos salaires qui ne sont pas assez élevés ? Est-ce que c'est la société de consommation autour de nous qui est tellement riche, tellement variée, qu'on a l'impression qu'on a du mal à se satisfaire ? Je pense qu'en ce moment, l'accès à l'alimentation n'est pas facile pour tout le monde. Je pense qu'il y a une inéquité dans les salaires des uns et des autres. C'est le montant pour certaines personnes qui n'est pas assez important.
Doit-on augmenter le salaire des femmes pour compenser les retards dans leur carrière dû à la naissance de leurs enfants ?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des allocations familiales ? Est-ce que les allocations familiales séparent un peu aider les familles ? Et si on regarde de façon globale le budget de la maison, est-ce que ça compense ? Alors, c'est vrai qu'après, une fois que l'enfant s'est envolé, il n'y a plus cette compensation-là, comme tu le présentes ?
Soit ils augmentent les salaires, mais c'est compliqué par rapport au poste qu'elles vont occuper. Soit ils cotisent moins pour la retraite et dans ce cas-là, ils rattrapent ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils ont perdu les 2 ans, 3 ans pour leurs enfants. Ils font 2 ans, 3 ans de moins de cotisation pour la retraite. Enfin, c'est mon idée.
Alors selon moi, la priorité non ne serait pas d'augmenter leur salaire du retour à la maternité, mais serait déjà d'essayer de trouver un moyen de leur assurer un poste, adapté à leurs besoins et adapté à ce qu'ils peuvent faire après leur congé maternité. Parce que en priorité, après les congés maternités, peut y avoir des difficultés dues à l'accouchement ou autre. Donc adapter leur poste de travail serait déjà le plus important pour qu'ils puissent avoir un travail. Puis après, se soucier du salaire.
Je pense qu'à travail égal, le salaire doit être égal. Est-ce que c'est au papa de prendre un peu plus de temps dans leur carrière, de lâcher eux un peu plus ? Voilà, après ça se négocie au sein du couple, c'est les projets du couple.
On devrait le faire, parce que c'est par rapport à leur retraite aussi, hein. Parce que déjà on gagne pas beaucoup à la retraite, même si on travaille avec un bon salaire, on gagne très peu à la retraite. Et là, si on travaille, si elle gagne moins automatiquement, elle a encore deux fois moins. La retraite, c'est pas ça jusqu'à ce jour. On n'y arrive pas du tout.
En France, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur de 23,5% à celui des hommes dans le secteur privé, car les femmes sont plus souvent à temps partiel, notamment à cause des arrêts de travail dus aux enfants. Actuellement, en France, sur 120 grandes entreprises, seulement 6 femmes sont PDG et les 114 autres sont des hommes.
Merci de nous avoir écoutés. C'était Inès, Nolan et Agathe sur le sujet de l'égalité salariale en France.
Bah, merci à vous. C'était super intéressant. On va finaliser cette partie avec le groupe de Théo, Mathéo et Nathan, les trois mousquetaires de notre classe, qui vont parler de l'égalité homme-femme en sport. Non mais attends, en fait si on te demanderait de citer des noms de sportifs ou sportives célèbres, qui tu me donnerais en fait?
Bah je sais pas moi, Jude Bellingham, Léon Marchand, ça c'est un nageur je crois, et Jonathan Edouard.
Non mais en fait t'as pas cité de meuf, mais peut-être qu'au fond les femmes elles sont pas assez mises en lumière. Bon, on va voir ça avec le groupe des trois mousquetaires.
Dans le monde du sport, il peut exister quelques inégalités entre les sportives et les sportifs, comme la différence de salaire ou de visibilité. Mais que pensent les gens de ces potentielles inégalités? Pour le savoir, nous vous laissons découvrir l'interview de Monsieur Faure, le CPE du lycée horticole de Blois.
Alors, on va vous poser quelques questions. La première, que pensez-vous de l'égalité homme-femme dans le sport?
Ah, l'égalité femme-homme ou homme-femme dans le sport. Déjà, il y a des compétitions masculines et féminines. Alors du coup, on ne confronte pas. Voilà. Après, ça veut dire qu'on mesure aux performances sportives. Et bon, de fait, on peut quand même se raconter que les deux physiologies, les deux corps, garçons et femmes, ne sont pas tout à fait les mêmes. Il n'y a pas la même proportion de muscles, de corps adipeux. Et donc, on ne peut pas forcément comparer les performances. Donc sans doute que ce n'est pas une mauvaise idée que de comparer ce qui est comparable, en fait, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons. Dans les faits, je crois que tous les sports aujourd'hui en France, hein, j'entends en France, sont ouverts aux catégories masculines et féminines. Restent les entre-deux. Les entre-deux, c'est les changements de genre, c'est la question de la transsexualité, qui n'est pas encore tout à fait... enfin, qui est tranchée, d'ailleurs, par les fédérations, par le monde olympique aussi. La mesure de la masculinité, de la féminité, se fait sur la base d'une mesure hormonale. Or, il y a des corps féminins ou masculins qui ne sont pas dans les normes. Et pourtant, ce sont des corps masculins ou féminins. Donc, c'est-à-dire qu'on doit déterminer une norme pour définir ce qui est féminin et ce qui est masculin, ce qui peut être en compétition dans ces genres-là, ce qui devient absurde quand même, on va se le dire, parce que bah, quelqu'un qui naît femme, qui est une femme, qui a juste peut-être un petit dysfonctionnement hormonal, ne pourrait pas être sportif de haut niveau et être considéré comme une femme athlète aux 100 mètres haies ou 110 mètres haies, sous prétexte qu'elle ne rentre pas dans la norme. Ça me semble un peu délirant, d'autant plus que la plupart des grands champions, qu'ils soient masculins ou féminins, sont des gens qui sont hors normes. Un sportif de haut niveau est une personne hors normes. Du coup, on va créer des normes pour des gens hors normes, ce qui est, me semble-t-il, un peu burlesque. Donc, j'ai envie de dire oui pour l'égalité, oui, mais...
Que pensez-vous du salaire féminin dans le sport en France?
Aujourd'hui, ce qui permet à un sportif d'être rémunéré, c'est la puissance médiatique et la couverture médiatique que propose un sport. Donc, bah, entre le football et puis, le bowling ou les fléchettes, et bah, y a un monde. Et puis, bah, dans ce qui est médiatisé, malheureusement, hormis certains cas très très particuliers, genre Coupe du Monde féminine de foot ou de rugby par moment lorsque c'est organisé en France, bah du coup il y a une couverture médiatique qui est plus large mais qui ne se tient pas. En fait, elle ne se tient pas sur du long terme. Donc on peut toujours se dire que c'est super chouette de voir les femmes jouer au foot. On remarque quand même que sur Canal+, sur DAZN et sur d'autres chaînes sportives, eh ben, c'est essentiellement le sport masculin qui est mis à l'honneur et assez peu le féminin. Donc ben, je pense que les revenus des sportifs sont aussi inégaux que la couverture médiatique que cela offre, finalement. Ça ne veut pas dire que les spectateurs n'ont pas envie de voir ça, mais ça veut dire qu'on leur offre de la confiture à la fraise et ils mangent de la confiture à la fraise. Si on leur offrait de la confiture à la figue, ils mangeraient de la confiture à la figue.
Quand vous regardez un sport, trouvez-vous qu'il y a une différence de jeu si c'est une femme ou un homme qui joue?
Ben oui, il y a parfois des différences, enfin pour les sports que je connais. Il y a une technicité qui est la même. Après, c'est ce qu'on qualifierait d'impact, de puissance, de vitesse parfois. Et ça revient à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que ben, Le sport, il est porté par des athlètes et les athlètes ont une couverture musculaire qui n'est pas la même, qu'on soit un garçon ou une fille. Après, il y a des ovnis, hein, des gens qui sont hors normes. Encore une fois, parmi les hors normes, il y a encore des encore plus hors normes et des gens qui vont à une vitesse folle. Et puis, on peut se raconter aussi que voir le sport à la télé, voir le sport en vrai, ce n'est pas la même chose. Je pense que si on va au stade et qu'on va regarder une équipe de foot féminine qui joue en national, déjà, ça va à 4000 à l'heure et moi, je serais tout à fait impressionné. Donc, un paquet d'athlètes féminines qui dépassent de loin des très bons athlètes masculins. Donc voilà.
Les sportives professionnelles sont-elles mises en valeur ?
Sur des grands sets, des grands moments comme les JO cet été, oui, ça a été le cas pour les sportives professionnelles féminines françaises dans les médias français. Mais encore une fois, c'est une bulle. Ce sont des bulles et après on les oublie. Si on veut qu'on se rappelle d'elle, il faut qu'elle performe durablement, il faut qu'il y ait une couverture médiatique régulière, ou bien qu'il y ait un intérêt particulier pour ce sport-là, pour les gens. Je pense que si je dis juste Kylian, vous allez me répondre.
Mbappé,
c'est ça. Maintenant, si je fais la même chose avec une fille, vous aurez bien du mal, je pense. Donc forcément, on ne s'en rend pas tout à fait compte, mais c'est du matraquage médiatique. Non, elles ne sont pas suffisamment mises en valeur à hauteur de performance. Parce qu'être un sportif professionnel, c'est son métier. Donc, c'est des sacrifices permanents, 24-24, en alimentation, en sommeil, en travail physique, en foncier, en intensité. Comme tous les métiers qui demandent énormément d'engagement à organiser la vie familiale, il y a beaucoup de sportifs qui sont dits professionnels, c'est-à-dire qui arrivent à des niveaux internationaux et qui ne vivent pas bien, qui doivent eux-mêmes payer leur voyage, payer leur chambre d'hôtel, payer leur coach, payer leur encadrement, leur kiné, leur psy, leurs préparateurs mentaux, au risque de parfois ne pas réussir à performer et donc perdre de l'argent. Et ça, c'est aussi une réalité dans le sport. On ne voit que ce qui brille. Mais ce qui brille, c'est le haut de la pyramide. En dessous, il y a toutes les fondations. C'est le sport amateur, c'est le sport pour les petits, c'est les bénévoles, c'est les fédérations, c'est comment dans les ligues ça s'organise, tout ça. En fait, on devient professionnel parce qu'on est aussi repéré, parce qu'on a aussi des encadrements. Ceux-là sont complètement invisibles. Mais c'est grâce à eux, hein, qu'il y a un tel niveau sportif en France.
Bah, merci.
Ben, remerciez vos profs de PS.
Maintenant, place à l'interview de Manon, une surveillante du lycée Horticole à Blois également.
Qu'en pensez-vous de l'égalité homme-femme dans le sport ?
Je trouve que l'égalité n'est pas tellement respectée de manière générale dans le sport.
Qu'en pensez-vous du salaire féminin dans le sport en France ?
Il est très bas par rapport aux homologues masculins, je pense notamment au foot, où des sportifs, enfin, des footballeuses vont être beaucoup moins payés, vont avoir moins de sponsors aussi que chez les homologues footballeurs.
Dans quel sport y a-t-il le plus de sportives ?
Ah, comme ça, je sais pas. J'aurais dit peut-être un cliché, peut-être plus l'équitation, pourquoi pas, les sports équestres. Mais après, le sport équestre, c'est quelque chose de vague. Donc, je sais pas du tout dans quel sport il y a plus de femmes.
Le sport où il y a le plus de femmes, c'est notamment au foot, avec 1,6 million de joueuses. Et dans quel sport y a-t-il le moins de sportives ?
Je ne sais pas dans quel sport il y a moins de sportives, par contre.
Il y en a notamment moins vers les sports de combat comme la lutte et aussi dans le rugby.
Pour conclure, comme nous avons vu que les femmes sont moins mises en valeur dans le sport, nous vous proposons de suivre la Ligue des champions féminines, en particulier des clubs français comme le PSG et l'Olympique lyonnais.
Ainsi que Gabby Williams, une basketteuse française actuellement au Storm de Seattle en WNBA, la Ligue américaine de basket.
Et enfin, Simone Biles, gymnastique américaine, qui a notamment gagné plusieurs médailles lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Merci beaucoup pour ce sujet et vos explications. Bah, au moins maintenant, je sais ce que je vais faire ce soir. On va faire une petite pause musicale avec la chanson « Le droit des femmes » de Aznavour.
Le droit des femmes, le droit des femmes.
Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. elle obéissait à ses pères et à l'église. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus, je le proclame,
je le proclame.
Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Bien les choses ont évolué depuis que Rome voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir comme. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus,
je le proclame.
Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafoués et cocus l'inacceptable. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable, les jeux sont faits, rien ne va plus, carte sur table. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus,
je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Femme poupée, femme au foyer, femme convexe, toutes ces femmes libérées de leur complexe, parlent de choix, parlent d'idées comme de sexe. Alors messieurs, ayons fair play, le bon réflexe. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus,
je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, pousser un landau sur les lieux mêmes où tous ses copains font le beau devant un crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on aime. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus,
je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Aujourd'hui le monde a changé, tout passe et casse, la femme dans la société a pris sa place, pilote, écrivain, PDG et puis j'en passe, comme finir à l'Élysée un jour de grâce. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus,
je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues et ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Échange de bons procédés, l'homme peut faire quelques-uns des petits métiers, des ménagères. On peut le voir marcher sur les grandes artères, fardé, peu vêtu, racolé, ses congénères. Le droit des femmes,
le droit des femmes
n'est plus,
je le proclame,
ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
Alors maintenant, on va continuer. On a pu parler des égalités et maintenant, on va s'intéresser plus aux femmes ainsi qu'à leurs droits pour cette partie-là.
Là, on va écouter notre trio d'enquêtrices et d'enquêteurs préférés, Samuel, Annel et Noéline, sur le viol et le consentement, qui est un sujet assez sensible et parfois un sujet tabou.
Bonjour. Alors pour commencer, nous allons vous expliquer ce qu'est le viol. Le viol est une agression sexuelle qui consiste à faire un rapport sexuel sans le consentement de son ou de sa partenaire. Nous avons effectué un micro-trottoir pour en savoir plus sur la vie des Blaisois sur le sujet.
Qu'est-ce que le viol ? C'est un rapport sexuel ou non, non consenti. Donc première question, qu'est-ce que le viol ?
C'est un acte non consenti.
C'est une agression, des gestes non consentis.
À quel moment pensez-vous qu'une personne est-elle victime de viol ?
Dès qu'elle n'est pas d'accord.
Comme c'est pas consenti. C'est pas consentant, ça veut dire la personne, elle ne veut pas. Voilà, c'est ça.
À partir du moment où il y a un rapport de force, ou que la personne en face n'écoute pas.
Et connaissez-vous des gens qui ont subi des attouchements ou...
Oui, beaucoup.
Non.
Non, a priori non.
Oui, j'en connais.
Non.
Non, personnellement non.
Est-ce que le viol peut être justifié ?
Non, sans aucun cas.
Non, pas du tout.
Pensez-vous que parler du viol, c'est tabou ?
Non, je pense pas.
Pour moi, non. Sincèrement, non, pas pour moi. Je suis très ouverte d'esprit. Ça devrait être même pas tabou, non.
Ça devrait pas, mais ça l'est.
Non, pas du tout, justement. Je pense qu'il faudrait plus en parler autour de nous et faire de la prévention.
Quels sont les autres types de violences ?
Violence verbale, violence physique.
Psychologique, mettre la pression, la violence psychologique au travail.
Violence morale, physique, harcèlement, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, voilà.
Bah, ça peut être tout le monde, c'est majoritairement les femmes, mais ça arrive aussi aux hommes.
Violence psychologique, violence physique, c'est à peu près les deux qui rassemblent le plus de choses.
Si vous étiez capable de punir une personne qui a exercé des violences sexuelles sur un de vos proches, comment vous le puniriez ?
La castration chimique, c'est une bonne méthode. Après, j'irais de la thérapie. Et puis surtout, vérifier que ce n'est pas un souci physique. Parce que parfois, ça peut venir de là, des soucis neurologiques qui provoquent.
La loi le punit par des amendes et des années d'emprisonnement.
Castration
chimique.
La plupart du temps, ils ne sont pas punis. J'ai un cas très, très, très d'une jeune fille et c'est vraiment très grave. Le commissariat lui a dit non, c'est une affaire classée, non. Voilà. Ce n'est pas pris au sérieux.
Ben, merci beaucoup.
Ouais,
passez de bonnes journées. Merci. Au revoir. Voilà, on a fini les questions. Merci beaucoup de nous avoir répondu.
Pas de problème. Merci, au revoir et bonne journée.
Merci, vous aussi, au revoir.
Pour tout résumer, le viol peut débuter dès le moment qu'il y ait des attouchements, des rapprochements forcés ou bien des actes sexuels inconsentis. Des lois et des sanctions ont été mises en place par le gouvernement contre les violences sexuelles, telles que la loi du 3 août 2018, connue sous le nom de loi Schiappa. Samuel, peux-tu nous en dire plus sur cette loi ?
La loi Schiappa vise à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle a introduit des mesures comme la création d'un délit d'outrage sexiste et elle a amélioré l'accueil des victimes dans les commissariats. Ce sera tout pour nous. Merci de nous avoir écoutés.
Bah, merci beaucoup pour ce que vous avez pu nous apprendre en plus. Et merci à la madame, elle est super gentille.
Et on va continuer avec Florine et Noam. Florine et Noam vont poursuivre le sujet en évoquant la prévention possible pour éviter des violences de ce genre.
Bonjour, nous allons vous parler du viol et du consentement. Le viol est un acte de pénétration et d'attouchement sexuel non consenti par l'une des personnes concernées. D'après le site Planétoscope en 2017, il y avait environ 9 viols de femmes par heure, donc 216 par jour. Depuis le 1er janvier 2025, 13 690 viols ont été enregistrés, sans compter ceux qui n'ont pas encore porté plainte. Et d'après le site arrêtonslesviolences.gouv, 230 000 femmes âgées de 18 ans et plus, en 2022, ont été victimes de viols, de tentatives de viols et d'agressions sexuelles. Et ce n'est pas qu'une estimation minimale. Le viol ne touche malheureusement pas que les femmes, mais aussi les hommes. D'après le site de l'INSEE, 96 000 hommes ont été violés en 2010. Nous allons maintenant vous passer un micro-trottoir dans lequel nous avons posé des questions sur le consentement et le viol.
Première question, qu'est-ce que le consentement ?
C'est l'accord de plusieurs parties.
Le consentement, c'est adhérer en pleine conscience à ce qu'on nous propose.
Le consentement, pour moi, c'est d'être en accord les uns avec les autres, que ça soit dit explicitement, oui, de dire oui.
Le consentement, bah, c'est approuver une relation avec quelqu'un. Il faut être responsable et avoir quelqu'un en face de soi de responsable. Voilà. Il y a une question d'âge aussi et de responsabilité mutuelle.
Est-ce que, d'après vous, il y a un profil psychologique du violeur ?
Probablement, oui.
Alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout dans la tête des violeurs. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre à cette question.
Je pense que dans certains cas, il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur façon d'être. Et après, s'il y a des pulsions, des fois, on ne comprend pas pourquoi, justement, on a des personnes comme ça. Ça arrive, on le voit dans l'actualité. Mais du fait, il faut rester prudent et imaginer, toujours clarifier les relations. Parce qu'après, on peut être vite pris par des gens qui nous piègent.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter le viol ?
Déjà, pénaliser le viol de façon importante et que tous les viols soient reconnus et que les violeurs soient vraiment punis à la hauteur de ce qu'ils font, parce que le viol, c'est un crime.
C'est une question difficile. Peut-être mieux éduquer, peut-être mieux suivre les gens qui ont des difficultés ou des problèmes psy.
De la prévention, hein, c'est dans les contes de Perrault, c'est le petit chaperon rouge. Et l'autre jour, j'en ai parlé avec un adulte qui me disait que dans le conte de Perrault, le méchant loup, ça peut être aussi dans la famille, ça peut être dans la proximité. Et c'est pour ça qu'on voit dans l'actualité, c'est pour ça, pas imaginer un profil particulier et bien enseigner aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ce que c'est que le consentement, voir la notion de son corps, faire attention, de toujours être en vigilance. Même si moi, je n'ai jamais été concernée. Mais voilà, l'actualité fait comprendre qu'il faut toujours faire de la prévention.
Et pour finir, avez-vous des séries, des livres ou des films à nous conseiller en rapport avec le viol ?
Non, mais on s'aperçoit dans certaines autrices que j'ai lues, ou même, parce que là, j'expose à Wilson, dans certains, comme Niki de Saint-Phal, dans des témoignages d'autrices aussi, Pancol, vous avez des autrices qui ont subi des violences, qui ont marqué, et justement, elles vont témoigner par les mots ou par l'art. Hein, si vous voyez l'œuvre de Niki Saint-Phal, elle n'a jamais digéré, entre guillemets, ça se comprend. Donc oui, il y a beaucoup d'auteurs, cinéastes, des fois qui vont permettre de s'épancher parce qu'elles ont connu des traumatismes. Après, vous avez oui, beaucoup de gens qui sont quand même hantés par leur passé à cause de ça. Oui.
Merci beaucoup.
Nous allons vous parler d'un cas de viol connu qui a récemment fait les tours des médias, qui est le cas de Gisèle Pelicot. Pendant 9 ans, cette femme a été droguée et endormie par son mari pour faire venir des hommes à leur domicile pour abuser sexuellement d'elle. D'après un extrait du Courrier international, c'est une affaire judiciaire hors norme qui apporte un précieux éclairage sur ce qu'elle dit de la culture du viol qui règne en France et aussi ailleurs, car le procès de Dominique Pelicot, accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle avec des médicaments entre 2011 et 2020, avant de la livrer à des hommes principalement à leur domicile de couple et jugée aux côtés de 50 d'entre eux, vous vous rendez compte que ce n'est pas un nombre normal. D'après le site www.justice.gouv, la peine minimale pour un auteur de viol majeur est l'emprisonnement ferme en moyenne de 6 à 9 ans de prison ferme. Les phrases du genre « Comment était-elle habillée ? A-t-elle vraiment dit non ? Je pensais qu'elle était consentante. Elle a dit non, mais son regard voulait dire oui » ne sont pas des excuses valables. D'ailleurs, aucune raison n'est valable pour excuser le viol. Nous allons vous passer des interviews réalisées avec Virginie Messis, infirmière, Stéphanie, assistante de l'éducation du lycée Horticole de Blois. Nous allons vous poser des questions sur le viol et le consentement. La première est « Qu'est-ce que le consentement ?»
Alors, le consentement, c'est donner son accord pour quoi que ce soit, en fait, tout et n'importe quoi. C'est donner son accord, dire qu'on est OK pour quelque chose.
Donc le consentement est un accord, en fait, entre deux personnes. On parle beaucoup de consentement en ce moment par rapport aux relations sexuelles, notamment. Et le consentement, c'est la capacité, la volonté à être en accord avec une relation sexuelle. Donc c'est pouvoir faire une demande au préalable avant d'obliger finalement quelqu'un à avoir une relation sexuelle pour laquelle il n'aurait pas envie.
Donc, à quoi sert le consentement ?
Ça sert à être clair et pas subir quelque chose qu'on ne veut pas.
Est-il important ?
Très important, indispensable.
Et ben le consentement en fait permet de ne pas forcer une personne à faire quelque chose qu'il ne désirerait pas. Souvent, il y a une histoire de consentement parce que le garçon a envie d'avoir une relation sexuelle avec la fille, que la fille ne désire pas avoir cette relation. Le consentement, en fait, permet à ce que les deux personnes soient en accord avec ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, ça permet, en fait, de vivre mieux sa sexualité.
Que faut-il faire dans le cas du viol ?
Je pense qu'il faut pas rester seul. Il faut en parler, peu importe à qui, mais il faut en parler. Et il faut se faire accompagner pour ce qui est toutes les démarches suite au viol, donc dépôt de plainte, accompagnement psychologique.
Alors, en cas de viol, il faut idéalement pouvoir en parler à quelqu'un de proche, alors que ça soit un ami ou un adulte. Ce qui est important, c'est de pouvoir libérer la parole et d'en parler.
Et que diriez-vous aux personnes qui se sont fait violer, malheureusement ?
Je mettrai l'accent sur le fait qu'elles sont des victimes, qu'elles n'ont rien à se reprocher.
Et surtout, ne restez pas avec une expérience mal vécue, une expérience douloureuse, parce que quelqu'un qui a subi un viol va garder cette blessure toute cette vie, et le viol est punissable par la loi. Donc c'est très très important en fait de pouvoir le dénoncer pour ne pas que ça se reproduise, pour que la personne se rende compte qu'elle n'est pas toute seule et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Et donc il est très très important de pouvoir en parler pour pouvoir être réparé.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Chères femmes qui ont été victimes de viol, sachez que vous n'êtes pas seules. Vous êtes les victimes, alors n'ayez pas honte, parlez-en autour de vous. Pensez aussi au numéro 0800 05 95 95. C'est le numéro de prévention du viol. Et rappelez-vous, votre consentement est important.
Malheureusement, dans les situations les plus extrêmes, un viol peut mener à une grossesse.
Et puis donner de l'amour à un enfant est souvent compliqué et l'IVG peut être une zone échappatoire.
Son corps, son choix. Alors, sur le sujet de l'IVG, nous allons écouter Maëlle et Julie, un duo de choc qui vont s'exprimer à travers un micro-trottoir. Bonjour, qu'est-ce que l'IVG ? Donc l'IVG, c'est une interruption volontaire de grossesse. Les femmes peuvent vouloir avorter car elles peuvent se sentir trop jeunes ou alors une agression sexuelle ou bien juste l'enfant n'est pas voulu. Donc on va vous laisser avec notre micro-trottoir sur l'avortement. Êtes-vous pour ou contre l'avortement ?
Alors moi je suis pour, hein, bien évidemment. Moi je suis pour.
Moi je suis pour.
Moi je suis pour car les femmes c'est leur corps, c'est leur choix, donc voilà.
Pourquoi ?
Parce que au moins comme ça, si les femmes elles se trouvent pas capables d'assumer un enfant, elles peuvent ne pas en avoir.
Parce que les femmes, s'ils veulent un enfant et que, par exemple, si c'est des jeunes femmes qui ont un enfant et qui ne peuvent pas le garder, au moins ils peuvent avorter, c'est bien pour eux.
Parce que si la madame elle n'est pas capable d'avoir l'enfant, comme ça, l'enfant il ne va pas grandir dans de mauvaises conditions.
C'est vraiment horrible parce que les femmes elles font ce qu'elles veulent, on n'a pas à leur interdire de faire ceci ni cela. Est-ce que les hommes, on leur interdit quelque chose ? Non.
Il y a des fois des grossesses qui ne sont pas désirées ou qui existent suite à des viols, par exemple. Donc là, déjà, rien que pour ça, déjà, ça pose la question, puisque il va y avoir une vie qui va naître, et cette vie-là, il va falloir s'en occuper, c'est une responsabilité. Donc quelque part, avant qu'il y ait une conscience, même si on imagine que la vie, c'est la vie, faire naître un bébé dans des conditions où on sait d'avance qu'il ne sera pas aimé, finalement, moi, dans ce cas-là, je préfère qu'il ne naisse pas.
Que pensez-vous de la nouvelle loi aux États-Unis ?
C'est mal. Trump, il a fait une grave erreur.
Eh ben, c'est inquiétant, justement. C'est inquiétant parce que c'est un retour en arrière, en fait. Alors, bien sûr, moi, j'entends bien les arguments de ceux qui sont contre. Voilà, justement, eux, ils considèrent que la vie est sacrée à partir du moment où elle débute. Ok, d'accord. Sauf que il y a ce dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui tombent enceintes suite à des viols, par exemple, ou qui n'ont pas désiré leur grossesse, qui n'ont pas pu avoir de contraception. Et en fait, c'est très grave pour l'avenir de ces personnes-là qui auront des grossesses non désirées.
Jusqu'à quel terme peut-on pratiquer une IVG en France ?
Je dirais 6-7 semaines.
7 semaines.
Il me semble que c'est au-delà de 3 mois, c'est plus possible. Mais je crois que ça a changé.
Dans quel pays l'avortement est interdit ?
Je pense qu'il y a l'Égypte qui est connue pour ça.
Alors là, comme ça, mais ce n'est pas des connaissances, hein, mais je dirais que peut-être en Arabie Saoudite ou en Afghanistan. Je crois que dans les pays où l'extrême droite est au pouvoir, peut-être dans certains pays d'Amérique du Sud aussi, je crois. Mais ça, je ne sais plus.
D'accord, bah, merci d'avoir répondu à nos questions et puis au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Pour conclure, on a pu regarder un film qui est sur le parcours de Simone Veil, qui s'intitule « Simone, le voyage du siècle ». Il est sorti en 2022. Simone Veil est représentée par Elsa Zilberstein. Ce film montre tout ce qu'elle a pu faire pour réussir à mettre en place cette loi. La loi est sortie en 1975. Nous espérons que ce film vous aura fait ouvrir les yeux sur l'IVG.
C'était super intéressant. Donc là, on va partir sur un sujet confortable, la liberté vestimentaire. Pour ça, nous allons découvrir le monde du vêtement entre le passé et notre génération. Pour cela, nous allons écouter Noam, Constance et Elisea, un groupe inséparable comme un ensemble Nike.
Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du pantalon, mais savez-vous que le pantalon a été interdit pour les femmes jusqu'au 31 janvier 2013. Depuis, les femmes peuvent porter des pantalons légalement. Savez-vous que depuis 1900, plus le temps passe, plus on dénude le corps, avec le t-shirt en 1910, puis les jupes en 1920 et le bikini en 1946.
Vous avez compris, nous avons parlé de pantalons et droits des femmes, on vous laisse avec nos micro-trottoirs.
Que pensez-vous de la liberté vestimentaire des femmes de nos jours ?
Eh bien, j'ai envie de dire que, heureusement que les femmes ont cette liberté justement vestimentaire, de s'habiller comme elles le souhaitent et de se sentir bien dans les vêtements qu'elles vont choisir. On est aujourd'hui en démocratie, donc ça fait partie en fait de ce système démocratique de pouvoir avoir ce libre choix.
Alors, est-ce qu'elles sont libres vraiment les femmes de pouvoir mettre tout ce qu'elles veulent ? Je ne suis pas sûre encore. Je trouve qu'il y a eu des gros progrès de fait, mais qu'on ne laisse pas encore suffisamment de liberté aux droits vestimentaires.
Ça pose quand même la question, je pense, qui est sous-jacente du regard des personnes qui croisent les femmes. Mais on pourrait presque élargir aux hommes aussi, après tout. Pourquoi pas un homme avec une robe ou une mini-jupe ? Dans certains quartiers, dans certains endroits, une femme mettant en valeur ses formes, parfois dénudant ses jambes, mettant des mini-jupes, on va considérer que ces femmes-là sont des femmes très féminines, voire très sexualisées. En fait, la sexualisation d'un corps, c'est pas tant la personne qui porte le corps que la personne qui regarde. Malheureusement, le harcèlement de rue conduit par des hommes sur des femmes, quelque chose de très répandu. Donc je comprends que ça puisse être malaisant pour une femme d'accepter à un moment donné de s'habiller de la manière dont elle le souhaite, en dénudant des petites parties de son corps, en choisissant de s'habiller soit avec des vêtements très cintrés, soit de manière jolie. Donc cette liberté-là, elle s'arrête aussi au contexte sociétaux dans lesquels on évolue.
Pensez-vous que le style vestimentaire aurait dû rester tel qu'il était en 1800, en robe longue, corset, jupon ?
Ça me semble quand même très compliqué qu'on reste en fait sur ce style vestimentaire. D'une part, parce que j'imagine que les femmes à cette époque ne devaient quand même pas être très à l'aise dans leurs vêtements. Un corset qui sert énormément. On le sait très bien aussi quand on apprend l'histoire qu'il y a eu quand même beaucoup de soucis de santé, notamment par rapport à ce style vestimentaire. Et puis, bien, la femme a évolué. Elle a aussi pris certaines libertés. Elle a acquis des droits surtout, et aujourd'hui elle peut faire valoir ses droits, et ce n'est pas en restant habillée et engoncée et enfermée dans ses tenues vestimentaires qu'elle pourra exprimer ses droits et cette liberté.
En fait, le style vestimentaire et la liberté de pouvoir s'habiller comme on le veut va être surtout la priorité. Donc après, si les femmes se trouvent bien avec des jupes longues, des jupons, des corsets, je trouve ça très joli. Et oui, après, si elles veulent s'habiller de façon différente, avec des choses plus courtes, pantalons, et c'est un droit, et c'est très bien que c'est pu évoluer.
Je pense qu'on vit dans un pays où on est en démocratie, on est en liberté, et puis il y a une parité entre les hommes et les femmes, donc il faut vivre avec son temps aussi. Donc chacun fait un peu ce qu'il veut.
Alors, je reformule la question, c'est est-ce que ces codes-là, c'est des codes qui auraient dû rester, c'est ça que tu dis ? Bah non, en fait. Enfin, pourquoi pas ? Mais on ne refait pas l'histoire. Je crois que les vêtements, la façon qu'on a eu de s'habiller, les codes ont suivi des évolutions majeures, historiques, scientifiques, sociétales, pratiques, d'hygiène aussi. Le progrès industriel a permis aussi de pouvoir changer de coupe, utiliser des tissus, des couleurs qu'on ne savait pas faire au 19e siècle. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien d'ailleurs. Hein, au 1800, moi j'adore la façon qu'avaient les hommes et les femmes de s'habiller. Je trouvais ça très chic. J'adorerais pouvoir m'habiller comme ça. Après, les vêtements n'étaient pas forcément aussi doux que les vêtements qu'on porte. Ce n'était pas aussi confortable que ça. Les chaussures, c'était bien raide. Le fard qu'il y avait sur le visage, ils étaient tous hyper maquillés. Enfin, c'était pas non plus ouf quand il faisait super chaud de s'habiller en gros costume avec le gros chapeau et puis et les robes et les corsets qui comprimaient complètement le corps pour rentrer dans des codes sociaux et de mode. C'était la mode. On n'invente jamais tout à fait, mais on réinvente. On s'inspire toujours un petit peu de ce qui s'est passé avant, mais c'était pas mieux avant, non.
D'après vous, le viol a-t-il un rapport avec la tenue vestimentaire ?
À mon sens, non. Le viol n'a rien à voir. À mon sens, le viol, il va plutôt naître en fait d'une problématique psychologique chez l'homme, même si on sait qu'il y a certains hommes qui sont aussi violés, hein, bien entendu. Je pense que le fait d'avoir une jupe courte, d'avoir un haut court ou un peu décolleté peut-être être considéré comme affriolant et comme générant un comportement qui peut aller jusqu'au viol. Mais il y a certainement autre chose qui relève sûrement du psychologique et je ne suis pas suffisamment spécialisée dans le domaine pour pouvoir y répondre.
Non, certainement pas. Pour certains encore, on associe la tenue vestimentaire comme quelque chose de d'inhérent au viol et pas du tout en fait. Heureusement qu'on est en droit de pouvoir s'habiller comme on veut et que c'est surtout pas l'habit qui va faire que la personne va être violée ou pas. C'est une tenue au contraire que chacun, notamment les hommes, doivent pouvoir, pour lesquels ils doivent pouvoir s'adapter et la tenue n'a rien à voir avec le viol.
Je pense pas forcément. Ça peut peut-être provoquer chez certaines personnes qui ont des problèmes un peu mentaux, peut-être, mais pour moi, non.
Non, ça n'a pas de rapport avec la tenue vestimentaire, le viol. Le viol, ça a un rapport avec un violeur, déjà, donc une personne qui prend pas garde au consentement de son partenaire. Alors là, c'est au-delà même du consentement. Un violeur est un violeur. Donc, on ne peut pas... dire qu'un enfant qui a été violé par un violeur, c'était parce qu'il s'habillait d'une certaine manière. Des petites filles et des petits garçons. Donc non, ça n'a pas à voir.
En tant que lycéen, on nous interdit parfois les crop tops et les joggings. Qu'en pensez-vous ?
Alors, la question, en fait, est très intéressante dans le sens où on doit construire à un moment donné un règlement intérieur de vie collective dans l'établissement. L'interdiction du crop top ou du jogging n'est pas une interdiction en tant que telle. Ce qui est demandé dans le règlement intérieur, c'est une tenue qui corresponde aux mœurs actuelles, mais surtout qui corresponde, j'ai envie de dire, aux exigences professionnelles de la filière dans laquelle le jeune va être. Donc, quand on est, par exemple, dans le commerce, être habillé ou en jogging ou bien avec un crop top, ne correspond pas à ce qui est attendu en fait dans ce domaine professionnel. Quand on est en production horticole, le jogging et le crop top ne correspondent pas non plus dans le sens où on va avoir une problématique, une question autour de la sécurité, et notamment un corps qui est un peu dénudé avec, dans le monde du travail, peut avoir une incidence en termes de protection, alors que quand on a un t-shirt plutôt long, ou quand on a une veste, ou quand on a un pantalon qui n'est pas trop ample, on va pouvoir se prémunir de ces aspects de sécurité.
Je pense que dans un lycée, par contre, moi je suis pour qu'il y ait une parité entre les élèves. On est là pour apprendre, les enseignants sont là pour enseigner aussi, et je pense que tout le monde devrait être habillé à peu près pareil, une tenue correcte. Après, chacun fait ce qu'il veut dans la rue. Moi, ça me regarde pas après.
Mais en fait, ce que je trouve, c'est que une femme, par exemple, ou une jeune fille qui va avoir une jolie poitrine ou qui va pas être trop grosse, on va accepter effectivement un crop top beaucoup plus que une jeune fille qui va avoir une poitrine protubérante ou du coup qui va être beaucoup plus enveloppée. Et je trouve que à partir du moment où on est bien dans son corps et que ça gêne personne, moi je vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait en fait cette tenue vestimentaire.
Il s'agit surtout de se dire que en fait vivre en société, ça laisse à supposer qu'on doit tous faire des petits efforts pour éviter de heurter les gens. En fait, vivre ensemble, c'est si on a envie d'être respecté dans ce qu'on est. Mais ça, notre sensibilité, notre pudeur, c'est aussi ça qui nous caractérise. Et si vous voulez être respecté pour ce que vous êtes, vous devez aussi respecter les autres. Et donc, moi, je n'ai pas forcément envie que vous imposiez, ou que moi, je n'ai pas envie d'imposer non plus mon impudeur ou mon originalité. Je peux le faire ailleurs, dans la rue, je peux le faire avec mes copains, j'ai ma liberté dans mon cadre privé, et après, dans mon cadre professionnel, j'essaye autant que possible de respecter les gens avec qui je vais travailler. Voilà.
Maintenant, les marques de vêtements comme H&M se mettent à faire des collections grande taille pour les personnes qui en ont besoin. J'aimerais parler d'une femme qui fait des vidéos sur YouTube. Elle se nomme Jasmine Chiswell. Son contenu consiste à comparer les objets de l'époque à ceux d'aujourd'hui, comme par exemple le maquillage, les produits d'hygiène, etc.
Moi, j'adore regarder ces vidéos car cela permet de savoir comment évoluaient les objets avec le temps et avec quoi les femmes vivaient.
Bon, on va finir avec le groupe de Marine et June, un duo amoureux de l'amour qui vont nous parler du droit de vote des femmes obtenu en 1944.
On va vous parler du droit de vote des femmes en France car c'est un sujet important à notre époque et qui concerne la moitié de la population.
Le droit de vote des femmes en France a été accordé le 21 avril 1944, après plus de 150 ans de lutte. Les Français ont voté pour la première fois en avril 1945. Plusieurs femmes ont lutté pour le droit de vote en France, comme Hubertine Auclert. Elle est connue pour ses actions audacieuses comme le refus de payer des impôts sans représentation et la tentative de renverser une urne lors des élections municipales de 1908. Et Alice Millia, pionnière du sport féminin et une militante des droits des femmes, notamment pour l'égalité dans le sport. Il y a 12 millions de femmes qui ont participé au premier vote féminin en France.
De Gaulle mettra le droit de vote après la Première Guerre mondiale. Les femmes avaient durement travaillé pour remplacer les hommes partis au front. Alors les femmes réclameront le droit de vote. Nous avons aussi vu dans une publicité publiée le 21 avril 1944 des archives de l'Hérault, la femme doit voter pour éviter la guerre, protéger l'enfance, améliorer l'hygiène, supprimer les taudis, réformer le code civil, réaliser la vie moins chère, combattre l'alcoolisme et les maladies évitables. Chacun doit s'affilier à un groupement féministe pour réclamer le droit de vote des femmes en France.
En conclusion, le droit des femmes en France fut accordé en 1944 et fut très important au niveau économique et social, car c'est un droit dont tout le monde devrait avoir accès, hommes, femmes, pauvres et riches. Actuellement, le droit de vote des femmes sont autorisés partout.
Un jour, Simone Veil a dit « Le droit de vote est un élément fondamental de l'émancipation des femmes, leur permettant de participer pleinement à la vie démocratique et de défendre leurs droits. »
Bah, merci beaucoup les filles.
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé de différentes façons à la réussite du projet, dont Jules, Jade, Lou, Léandro, Lilou, Luna, Annelise, Inès, Ilana, Agathe, Théo, Mathéo et Nathan.
Puis Samuel, Anaël, Noéline, Florine, Noam, Maëlle, Julie, Noam, Constance, Elisea, Marine et June.
On remercie aussi notre professeure, Madame Daprato, qui nous a permis de refaire ce projet avec comme partenaire Studio Zef.
Merci à Clémentine, l'animatrice de la radio. Vous pourrez réécouter ce podcast sur le site de la radio.
Bravo à tout le monde!